VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Il est 16h à Abidjan, 17h à Niamey et 18h à Bukavu. Dans l'est de la RDC, 6 civils ont été abattus lundi dans 3 attaques distinctes attribuées à des rebelles ougandais. Les attaques ont eu lieu à une cinquantaine de kilomètres au nord de la ville de Beni, dans le nord de la province du Nord Kivu. Les 3 attaques se sont succédées dans l'après-midi à Tenambo, Mukoko et à Linzo Sizene. L'administrateur du territoire de Beni, Amissi Kalonda, a indiqué à l'AFP que toutes les victimes avaient été tuées par armes à feu et qu'un militaire avait été blessé. Au total, les attaques ont fait 6 morts, selon l'administrateur. M. Kalonga a accusé les rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées, les ADF Nalu, d'être responsables de ces nouveaux meurtres. Le porte-parole de l'armée dans la région a confirmé les attaques sans être en mesure de donner un bilan, mais a accusé lui aussi les ADF d'en avoir été à l'origine. Les ADF Nalu sont présents depuis 2 décennies dans l'est du pays, où ils sont accusés d'avoir tué plus de 400 personnes dans une série d'attaques depuis octobre 2014 en territoire de Beni et dans la province orientale. Le Nord Kivu est déchiré depuis plus de 20 ans par des conflits armés alimentés par des différents ethniques et fonciers, la concurrence pour le contrôle des ressources minières et des rivalités entre puissances régionales. En Guinée, la mission d'observation de l'Union européenne pour l'élection présidentielle de dimanche dernier a appelé les candidats à recourir à la justice plutôt qu'à la rue en cas de contestation des résultats attendus. Lors d'une conférence de presse ce mardi à Conakry, le chef de la mission, Frank Engel, a également critiqué le manque de préparation de la commission électorale. Lundi, les 7 adversaires du président sortant Alpha Condé ont réclamé l'annulation du premier tour, jugeant le scrutin entaché de fraude. Le leader de l'opposition guinéenne, Sélou Dalein Diallo, a déclaré qu'il mobiliserait ses partisans pour se faire entendre. « On n'a pas de recours, la justice est inféodée », a-t-il lancé. Le taux de participation au premier tour a été estimé à 60% par les observateurs européens qui ont déploré des problèmes d'organisation de la CENI. Le chef de la mission, Frank Engel, a regretté que la commission électorale n'ait pas suivi tous les conseils qui lui avaient été donnés sur le scrutin. Monsieur Engel s'est cependant félicité de l'absence de violence et de boycott le jour du premier tour, estimant que de ce point de vue, le scrutin du 11 octobre a été exemplaire pour le pays. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant ce soir ou mercredi. Pour les annoncer, la commission électorale guinéenne dispose de 72 heures à partir de la réception du dernier procès verbal des quelques 14 000 bureaux de vote dans le pays. La commission électorale est au centre d'une controverse aussi sur le transfert des fichiers électoraux 2015 de la diaspora guinéenne aux États-Unis. Mamadi Kondé, ambassadeur de Guinée à Washington, demande des comptes à l'organisme de supervision des élections qui aurait, selon lui, égaré les données de base des ressortissants guinéens vivant en Amérique. Georges Léonard Sagno lui a tendu le micro.
Ils ont délégué leurs représentants de New York pour venir prendre les ordinateurs et les clés contenant les données de Washington. Ces clés ont été regroupées à New York plus les 3 ordinateurs. New York avait 2 ordinateurs plus 4 clés. Nous, on avait 3 ordinateurs plus 6 clés, ce qui fait 10 clés. Mais il n'y a que 5 clés, semble-t-il, qui sont arrivées à la CENI. Où sont passées les autres 5 clés? Donc, cette enquête, c'est à la CENI de déclencher et situer la responsabilité. Ils ont délégué quelqu'un avec ordre de mission pour venir prendre les données ici. D'ailleurs, j'avais même fait opposition en disant que pourquoi Washington doit transmettre ces données à New York. New York dépend de Washington. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une ambassade là-bas, ça c'est une dérogation. Mais la dérogation consulaire ne doit pas amener la CENI à considérer New York comme le point de départ. Non, c'est une erreur. C'est Washington qui est le point de départ. Or, c'est l'inverse qui se produit. J'ai dit jamais, je ne suis pas prêt à transmettre mes données à travers New York. Ils ont dit non, il y a quelqu'un qui vient avec ordre de mission. Veuillez lui remettre les données. Et c'est ce qu'on a fait. On a exécuté. Depuis lors, on a perdu les traces de nos clés. Parce qu'ils se sont égarés entre New York et la CENI. Il y a une main invisible certainement qui a manipulé. Et comment et pourquoi? C'est pourquoi j'ai exigé que la CENI fasse une enquête là-dessus. Parce que c'est nous qui en sommes victimes, ce sont mes citoyens qui sont victimes.
C'était Mamadi Condé, ambassadeur de Guinée aux États-Unis. Au Burkina Faso, la justice militaire à Ouagadougou remet aujourd'hui aux avocats le rapport préliminaire d'autopsie de l'ancien président Thomas Sankara et de ses compagnons assassinés en octobre 87. Le point avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Bagassi Koura.
Depuis 9h, temps universel ici, hein, les avocats de la famille Sankara et aussi des 12 autres victimes du coup d'État de 87 sont arrivés ici au tribunal militaire. Ils sont à l'intérieur avec probablement les juges militaires pour recevoir donc ce dossier qui concerne l'expertise donc des restes supposés de Thomas Sankara et de ses 12 autres compagnons. C'est un moment très attendu, hein, parce que ça va donner une nouvelle allure à ce dossier qui a longtemps stagné pendant des années jusqu'à la chute en octobre dernier du président Blaise Compaoré et aussi le démantèlement il y a quelques jours du RSP, le régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré qui a été pendant longtemps cité dans ce dossier, hein, que ce soit le dossier Thomas Sankara ou encore d'autres dossiers comme Norbert Zongo, le journaliste qui a été assassiné en décembre 1998. Et donc, avec la remise de ce rapport, on s'attend à ce que les avocats prennent connaissance et probablement, dans le courant de la journée, on aura leur réaction, leurs premières impressions sur ce dossier-là.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
70 jeunes Soudanais se sont rendus en Syrie et en Libye pour rejoindre les rangs du groupe État islamique, selon le ministre de l'Intérieur soudanais Ismat Abdelrahman. Le point avec Michel Joseph.
C'est la première fois que des autorités soudanaises avancent un chiffre précis concernant ces jeunes attirés par le groupe djihadiste. Plusieurs étudiants du Soudan, certains détenteurs de passeports occidentaux, se sont rendus en Syrie via la Turquie pour combattre avec l'EI, selon des médias. Le ministre soudanais de l'Intérieur, Ismat Abdelrahman, que cite l'AFP, a fait savoir que son pays, en coordination avec le gouvernement turc, avait réussi à empêcher plusieurs personnes de rejoindre l'organisation djihadiste opérant en Irak, en Syrie et en Libye. Selon lui, les services de sécurité et de l'éducation ont lancé une campagne de sensibilisation pour empêcher les jeunes Soudanais d'aller combattre avec le groupe djihadiste. En juin, 12 étudiants, dont des Britanniques et des Canadiens, auraient quitté l'Université de sciences médicales et de technologie à Khartoum pour la Turquie afin de rejoindre le groupe État islamique en Syrie. Un autre groupe de 9 étudiants britanniques d'origine soudanaise inscrits à la même université aurait fait de même.
Le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk a accusé ce mardi les services secrets russes d'avoir abattu en juillet 2014 le Boeing 777 du vol MH17 de Malaysia Airlines, assurant la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur. Ces déclarations interviennent après la publication aux Pays-Bas des résultats de l'enquête internationale sur ce drame qui a fait 298 morts néerlandais pour la plupart. Le rapport a conclu que l'avion avait été abattu par un missile sol-air tiré depuis une zone de l'est de l'Ukraine où s'affrontent militaires ukrainiens et séparatistes pro-russes. Moscou a contesté cette version. Le président russe Vladimir Poutine a vivement critiqué ce mardi le manque de coopération des États-Unis dans le conflit syrien et mis en garde contre le parachutage de munitions aux rebelles luttant contre le régime de Bachar al-Assad. Monsieur Poutine a reproché aux Américains de ne jamais répondre quand les Russes leur demandent quelle cible l'aviation russe doit bombarder en Syrie. Il a par ailleurs assuré que la Russie n'aspirait pas à un quelconque leadership sur la Syrie. Dans le sud de l'Afghanistan, des tirs sporadiques ont secoué ce mardi les alentours de la ville de Ghazni. La veille, les forces gouvernementales avaient repoussé une offensive des talibans, 2 semaines après leur assaut victorieux contre une autre capitale provinciale, Kunduz, dans le nord du pays. Cette offensive contre Ghazni, capitale de la province éponyme au sud de Kaboul, a relancé les inquiétudes sur la volonté de la rébellion islamiste de progresser au-delà de ses fiefs ruraux du sud du pays et de s'en prendre pour la première fois depuis 2001 à de grands centres urbains. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël utiliserait tous les moyens à sa disposition et déciderait de mesures fortes face à l'escalade des violences avec les Palestiniens, rapporte l'AFP. Au Pakistan, 8 hommes condamnés pour meurtre ont été pendus aujourd'hui, ont indiqué les autorités pénitentiaires. Ceci porte à plus de 230 le nombre d'exécutions. Et ceci était en réaction à une attaque des talibans en décembre dernier contre une école ayant fait 154 morts. Et voilà, le prochain bulletin, c'est dans 50 minutes. Restez avec nous sur VOA Afrique.